La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Nous sommes ce que nous mangeons, que ton aliment soit ton seul médicament. Ainsi parlait le père de la médecine Hippocrate 460 ans avant Jésus-Christ. Et depuis ses préconisations antiques, les études scientifiques montrant le lien direct entre l'alimentation et la santé se sont multipliées. Le biologiste Walter Longo dirige à Los Angeles l'Institut de la longévité au sein de l'Université de Californie. Et vous l'avez peut-être vu dans un documentaire que la chaîne Arte avait diffusé sur le jeûne en montrant ses effets bénéfiques dans le traitement du cancer entre autres. Walter Longo, qui est spécialiste des mécanismes cellulaires et génétiques du vieillissement, publie en France le régime de longévité dans lequel il explique comment régénérer l'organisme pour combattre les maladies. Il est mon invité dans un instant, il répondra en direct à vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui un petit tour dans les récifs de Moréa.
Oui Mathieu, on va plonger dans les eaux chaudes polynésiennes pour compter les rayures des poissons clowns, on est comme ça.
Eh bien on va vous suivre, et puis c'est Fanny Boyon en attendant qu'il réalise cette émission préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, le régime de longévité, un livre qui paraît chez Actes Sud et dont vous êtes l'auteur, Walter Longo. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue, très heureux de vous accueillir dans La Tête au Carré, entretien qui sera traduit par Xavier Combes. Walter Longo, on passe notre temps dans cette émission à dire que les régimes, ça ne sert à rien, puisque les études montrent qu'en général, les personnes finissent toujours par reprendre du poids, voire reprendre encore plus de kilos. En quoi votre régime de longévité est-il plus intéressant ou plus efficace?
First of all, diet to us is a technical scientific term. It has nothing to do with diet.
Avant tout, il faudrait dire que le mot régime est un terme scientifique dans mon esprit et dans l'esprit de la communauté dont je fais partie. Il ne s'agit pas simplement de perdre du poids. Nous savons que le régime a un impact sur la longévité. Depuis des centaines d'années, les gens essayent de vieillir le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui, on sait que chez les singes, par exemple, si on les met sur un régime particulier, 60% de ceux qui sont porteurs du diabète le perdent. Et s'agissant du cancer, le chiffre de 50%. Ça, c'est une étude qui a été menée à l'Université du Wisconsin sur une très longue période. Donc nous, nous sommes lancés dans le détail, mais nous posons la question suivante. Alors, il y a des régimes qui ne sont pas réalistes et qui ont des effets secondaires. Nous voulons des régimes, nous, qui soient sensés et qui n'ont pas d'effet secondaire. Je crois que nous touchons cela du doigt. Nous en sommes vraiment très proches.
Avec la recherche fondamentale qui est au cœur justement de vos travaux, on va en parler dans un instant et puis on va voir ce que vous proposez précisément comme régime, en tout cas comme façon de vivre et de changer un petit peu ses habitudes alimentaires. On va en discuter donc ensemble avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré. Walter Longo, à tout de suite.
Est-ce que tu ressens une inflammation des tissus du sang vaseux?
Non.
Combien j'ai de bandes sur le dos?
Ça va, je te dis.
Combien j'ai de bandes sur le dos?
3.
Non, tu vas bien, ça va pas du tout. J'ai 1, 2, 3 bandes, c'est tout. Oh, tu n'as rien.
Ça baigne.
Voilà un extrait du film d'animation Le Monde de Nemo des studios Pixar, puisque ce sont les poissons clowns qui sont à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard.
Oui Mathieu, et c'est leur costume qui va nous intéresser. Est-ce que vous savez Mathieu de quelle couleur sont les bébés poissons clowns?
Alors ils sont peut-être orange, non? Non, priori
ils sont transparents.
Allons
et ça dure 50 jours, puis ils orangissent, une bande blanche apparaît, puis 2, puis enfin 3. Et c'est cette métamorphose que vient de décrypter une équipe de chercheurs français et belges. On accueille l'un d'entre eux pour en parler. Bonjour Vincent Laudet.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis les locaux de France Bleu Roussillon. Vous êtes biologiste, professeur à Sorbonne Université et directeur du labo Arago à Bailleul-sur-Mer. Alors ce poisson clown, c'est quand même un peu la star des récifs. Il est connu de tous. On imagine qu'il est très étudié. Je suis assez étonné que vous découvriez seulement maintenant cette histoire d'apparition en décalé des bandes. Comment ça se fait ?
Bah, essentiellement parce que les gens qui étudient le poisson cloud, la plupart du temps, sont des écologistes qui s'intéressent à la façon dont ils vivent dans les récifs, ou alors qui s'intéressent à tester l'effet du réchauffement climatique sur ce poisson. Pas tellement sur son développement embryonnaire, et c'est ça l'originalité de nos travaux, c'était de vraiment l'étudier comme des biologistes du développement peuvent étudier une espèce.
Alors racontez-nous l'histoire de ces couleurs, l'histoire des couleurs de ces clowns tout au long de leur vie.
Ben alors, comme vous savez, en ayant vu le film, les parents poissons clowns pondent des œufs à côté de l'anémone de mer. Ces œufs vont éclore et vont donner des petites larves, à peu près 300, transparentes, qui vont partir loin dans l'océan et vivre dans le plancton pendant, chez cette espèce, une quinzaine de jours. Et puis, ils vont revenir de l'océan vers le récif. Et évidemment, quand ils sont dans l'océan, il faut qu'ils soient transparents, parce que sinon, ils seraient trop visibles. Donc, ils sont transparents pour se confondre dans le bleu et éviter leurs prédateurs. Et quand ils rentrent sur le récif, eh bien, leur pigmentation, leur bande de couleurs apparaissent. Donc, le orange, bien sûr, et puis les trois bandes blanches qui apparaissent successivement.
Alors, elles apparaissent toujours dans le même ordre, la tête, le corps et puis la queue. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans cette découverte d'un point de vue du développement ?
Eh ben alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours le même ordre, la tête, le tronc, la queue, et puis que ensuite on a étudié l'évolution de ces bandes, on a retracé dans les différentes espèces de poissons clowns l'histoire des bandes. Il y a des poissons clowns qui ont des espèces qui ont 0, 1, 2 ou 3 bandes. Et on s'est aperçu que le poisson clown ancestral avait 3 bandes et qu'on a donc une histoire évolutive, une diversification des poissons clowns avec des pertes de bandes. Et ces pertes se font dans l'ordre inverse de leur apparition au cours du développement. C'est-à-dire, on perd d'abord la bande de la queue, puis celle du tronc, puis celle de la tête. Ça suggère qu'il y a une contrainte développementale très très forte. On peut pas faire n'importe quoi. Mmh. Ça suggère qu'il y a un système génétique très particulier et très intéressant à aller étudier.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tous les poissons clowns ont tous 3 bandes ?
Alors les poissons clowns, le Nemo, l'espèce Nemo a 3 bandes, mmh, et dans les 30 espèces, il y en a qui ont 0, 1 ou 2 bandes.
D'accord. Est-ce que vous avez pu déterminer, j'ai envie de dire, le pourquoi, à quoi servent ces bandes et pourquoi cet ordre différé d'apparition alors ?
Alors, le pourquoi en biologie, le pourquoi est toujours une question compliquée. En fait, à toute question en biologie, du pourquoi, ça ramène à la question des causes immédiates et des causes finales. Je vais prendre un exemple simple. Pourquoi les oiseaux ont-ils des ailes ? Eh ben, réponse évidente, pour voler. Ça, c'est la cause finale. Mais aussi, ils ont des ailes parce qu'ils ont modifié l'expression de certains gènes au cours du développement des membres pour les transformer en ailes. Ça, c'est les causes immédiates. Donc, si on pose la question, pourquoi les poissons clowns ont-ils des bandes ? Il y a une cause finale. Et la cause finale, là, visiblement, c'est pour se reconnaître plus facilement entre espèces. Visiblement, les bandes servent à la reconnaissance interspécifique. Donc, un poisson compte les bandes des poissons là autour et détermine c'est la même espèce ou c'est pas la même espèce. Et par ailleurs, sur la cause immédiate, eh bien, on voit cette apparition successive au fur et à mesure qui suggère qu'il y a un mécanisme développemental très complexe lié à la position sur le corps qu'il faut qu'on étudie. Pour l'instant, c'est une boîte noire.
Alors, et ces bandes, est-ce qu'on peut parler de camouflage ? Parce que quand même, il est flashy. C'est difficile de parler de camouflage quand on brille comme ça.
Ouais, alors il peut y avoir de très nombreux messages associés à une couleur. Dans le cas du poisson clown qui vit tranquillement dans son anémone de mer, il me semble que le camouflage n'est pas tellement son problème. Parce que quand il est dans son anémone, personne ne vient l'embêter, elle est urticante, ça fait peur aux autres poissons. Donc le poisson clown ne sort de l'anémone que pour défendre ses œufs. Et là, effectivement, il prend des risques, mais il n'a pas besoin d'être camouflé. Là, il veut plutôt se voir pour essayer de faire peur à l'adversaire. Donc, il se trouve que les poissons clowns, c'est des animaux extrêmement sociaux, qui ont un système social assez complexe, et donc leurs bandes leur servent sûrement à établir des communications entre espèces et avec les espèces voisines.
Vincent Laudet, est-ce que le poisson clown pourrait être un modèle animal du point de vue de la longévité ou pas ?
Ah, c'est un formidable modèle du point de vue de la longévité. Imaginez, on estime qu'un poisson clown, c'est un poisson qui fait 5, 6, 7 centimètres, peut vivre 30 ans. 30 wow. ans, pour vous donner une idée, c'est la longévité du dromadaire. Donc c'est une longévité extrêmement grande pour un poisson de cette taille. Et donc la question de savoir comment il atteint une telle longévité est ouverte et serait très intéressante. J'aimerais bien pouvoir travailler là-dessus un de ces jours.
Ouais, Walter Lango, est-ce que vous saviez que le poisson clown était un champion de la longévité dans les eaux du globe ?
Je l'ignorais à propos du poisson clown. Mais il y a plusieurs groupes en Allemagne, le groupe Max Planck et un autre groupe à Stanford, groupe de chercheurs donc, qui se penchent sur la longévité d'autres espèces de poissons. Leurs études sont couronnées de succès, mais je suis ravi de voir qu'on s'intéresse à d'autres espèces encore, notamment le poisson clown.
Allez Axel, une dernière question très vite.
Oui Vincent Laudet, comment se porte le poisson clown dans les récifs de Mouréa en Polynésie française, là où vous l'étudiez, notamment après le film de Pixar?
Eh ben écoutez, il se trouve qu'à Mouréa, il n'y a pas l'espèce qui sert au film de Pixar, donc tout va bien de ce point de vue-là. C'est vrai qu'il faut se méfier de l'utilisation des poissons clowns, notamment parce que beaucoup de gens veulent en acheter pour faire plaisir à leurs enfants. Il faut rappeler que c'est une espèce délicate à faire tenir en aquarium et que donc il faut se lancer dans un élevage de poissons marins uniquement avec beaucoup de précautions et qu'il faut faire attention aux récifs coralliens en général.
Merci Vincent Laudet, merci aux équipes de France Bleu Roussillon à Perpignan. Et puis Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle Une de la Science.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, planète ou pas planète, Pluton fait encore parler d'elle et de son statut. Classée parmi les planètes jusqu'en 2006, elle est aujourd'hui considérée comme une planète naine en raison de son orbite elliptique. Mais un universitaire de Floride compte bien lui redonner son statut originel. Dans une large étude, il défend l'idée que la classification actuelle n'est pas la bonne pour les planètes car les orbites sont changeantes dans l'histoire du système solaire. Il propose d'appeler planète les corps dont la gravité est suffisante pour former des sphères bien rondes. Le débat est donc relancé une fois encore. L'astrophysicienne britannique Jocelyn Bell Burnell vient de recevoir le prix Breakthrough Science 2018 en physique fondamentale. Ses travaux sur les pulsars radio datent des années 70 et avaient valu un prix Nobel à son directeur de thèse de l'époque, Anthony Hewish, mais pas à elle. Une injustice que ce prix décerné par Facebook et Google, le plus lucratif de la science moderne, essaye donc de compenser. La chercheuse, aujourd'hui professeure à Oxford, a indiqué que l'argent servirait à la création d'une bourse d'études pour les femmes, les minorités ethniques et les réfugiés en science. Et puis pour terminer, une bonne nouvelle inattendue dans le désert du Sahara. L'installation à certains endroits de panneaux solaires et d'éoliennes a fait augmenter les précipitations. Un effet bénéfique qui s'explique par deux phénomènes conjugués. D'un côté, le brassage de l'air dû aux pales d'éoliennes qui augmente l'évaporation et favorise la pousse de plantes. Et de l'autre, les panneaux solaires qui diminuent la réflexion de la lumière du soleil sur le sol, ce qui permet donc aux nuages de mieux s'accumuler. Allez, Walter Longo, notre invité dans un instant pour parler longévité et alimentation. Don't beat the girl out of my boy. C'était Anna Calvi sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, on est très heureux d'accueillir Walter Longo cet après-midi dans La Tête au Carré à l'occasion de la sortie en France donc de cet ouvrage, Le régime de longévité, qui sort chez Actes Sud, qui a été un énorme succès en Italie, plus de 350 000 exemplaires vendus. Livre également sorti aux États-Unis. Vous êtes professeur de gérontologie et de sciences biologiques, Walter Longo, et vous dirigez l'Institut de gérontologie de l'Université de Californie du Sud, ainsi que le programme oncologie et longévité à l'Institut d'oncologie moléculaire de Milan. Et pour parler donc santé, alimentation, longévité, les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions en direct sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Walter Longo, je le disais tout à l'heure, les téléspectateurs français vous connaissent entre autres grâce à un documentaire qu'Arte avait diffusé sur le jeûne et dans lequel vous montriez les avantages du jeûne sur l'espérance de vie. Et aujourd'hui donc vous publiez ce livre autour des recherches que vous menez sur ce lien entre alimentation, longévité et maladies comme le cancer. Vous écrivez que les secrets de la longévité vous ont toujours fasciné. Il faut préciser d'abord un bout de votre histoire, parce que vous avez passé vos vacances d'été dans le village de vos parents en Italie, à Molocchio. C'est un village particulier en quoi exactement ?
C'est d'abord un village formidable, c'est là qu'habitent mes parents. Donc plus sérieusement, j'y ai grandi. C'était une situation étrange que de faire toutes ces recherches pour m'apercevoir que le régime de Salvatore Caruso, qui a vécu par avoir 110 ans et qui était un habitant de Molocchio, était complètement en adéquation avec ce que nous avons découvert sur le plan scientifique. Évidemment, tout cela est assez simpliste. C'est plus compliqué que cela, mais il y a des caractéristiques fondamentales du régime qui étaient fondamentales. Peu de protéines, un régime surtout vegan. En fait, ces gens-là mangent pas mal, ils mangent beaucoup. On n'entend jamais « mange moins » dans ce village. En Calabre, on a tendance à manger beaucoup, hein. C'est le cas dans la partie sud de l'Italie.
Et donc, à l'âge de 16 ans, vous partez aux États-Unis, à Chicago. Et là, pour vous, c'est un petit peu le choc dans les assiettes avec les habitudes alimentaires très opposées, finalement, à celles que vous connaissiez en Italie.
Oui, je me suis aperçu que mes parents de ma famille, émigrés italiens aux États-Unis, étaient pourtant de Calabre, mais ils avaient des problèmes cardiovasculaires et tout un tas de maladies. Mais arrivé aux États-Unis, je ne me souviens pas que dans ma famille, il y avait de tels problèmes. Et puis évidemment, en Calabre, on ne boit pas de boissons sucrées, on ne mange pas autant de viande, on ne mange pas des bonbons comme le font les Américains. Donc, à cette époque, je faisais de la musique. Et je ne réfléchissais pas trop à toutes ces questions. Mais ça a été quand même un déclencheur. Quelques années plus tard, lorsque j'ai eu la possibilité, je suis passé du monde de la musique au monde de la biochimie. Parce que je me suis dit que c'était fascinant. Et il y a une relation fascinante entre ce que l'on mange et l'espérance de vie.
Est-ce qu'il y a beaucoup de centenaires à Molocchio, justement, dans ce village italien de vos parents ?
Oui, Molocchio montre une forte prévalence de centenaires à l'échelle mondiale, et ce depuis longtemps. Moins que Sardegno en Sardaigne, mais entre 2 et 5 personnes de plus de 100 ans dans un village de 2000 personnes, une petite ville de 2000 personnes. Donc vous voyez, la prévalence est très importante. Et aujourd'hui, il y en a 2 et il y en a un qui va bientôt avoir 100 ans.
Ouais. Est-ce que ce sont des centenaires ou des gens âgés, en tous les cas, dans ce village, en bonne santé, Walter Longo ? Parce que c'est finalement ce qui vous intéresse aussi dans votre travail de recherche. C'est la longévité en bonne santé.
Yes, that's the thing that struck me the most.
Oui, c'est ce qui m'a frappé le plus. Qu'il s'agisse de Caruso ou Morano dans le nord de l'Italie, ces personnes-là étaient en bonne santé. Les personnes qui suivent un régime alimentaire de qualité et qui observent un certain nombre de règles se retrouvent en bonne santé. Salvatore, par exemple, était très fort sur le plan cognitif. Il avait une excellente mémoire et puis il était assez autonome. Il vivait avec son fils, mais il était quand même assez autonome à l'âge de 110 ans.
Alors des personnes centenaires, en très bonne santé en tout cas, en étant âgées, on aurait pu prendre l'exemple évidemment d'Okinawa au Japon qui est bien connu, mais on a aussi par exemple le Cachemire en tous les cas, vous allez l'entendre dans cet extrait, avec des personnes qui vivent très bien et très longtemps.
Un chef de famille entouré de plusieurs générations. Afizula ne compte même plus ses descendants. Cela fait 107 ans qu'il vit ici, dans la vallée de Nilom, aux confins du Cachemire pakistanais.
Autrefois, on mangeait de la nourriture simple. On mangeait nos propres légumes, la viande de nos propres animaux. L'environnement était bon. Je suis toujours en forme, grâce à Dieu. J'ai eu très peu de maladies.
L'altitude pourrait expliquer cette longévité exceptionnelle. Ici, l'oxygène est raréfié, ce qui enrichit davantage le sang des habitants en globules rouges, fortifiant le muscle cardiaque. Mais pour les habitants du Haut-Cachemire, le secret de leur longévité est beaucoup plus simple. Une alimentation saine, de l'eau pure et de l'exercice au quotidien.
Alors l'exemple des montagnards du Cachemire, Walter Longo, est-ce que les choses sont aussi simples que ça finalement? Est-ce que c'est juste une question d'alimentation, d'une bonne alimentation, la longévité, ou est-ce qu'il y a quand même des aspects multifactoriels qui entrent en jeu?
Si on fait le tour du monde, comme je l'ai fait, et qu'on demande aux centenaires comment ils font pour vivre si vieux, eh bien on obtient 100 réponses différentes, évidemment. Mais aujourd'hui, après une centaine d'années d'études dans différents laboratoires, on sait qu'on peut essayer de prolonger la vie des organismes, et le régime alimentaire est bien plus puissant que toute autre approche. Et je vous parle pas simplement du régime que moi je préconise, mais on a vu cela chez des souris, chez des rats, chez des primates, et maintenant on a même des données épidémiologiques chez l'homme. Et on passe aux études cliniques randomisées pour démontrer cela. Autrement dit, le régime alimentaire peut vraiment avoir un impact très fort, bien plus que tout autre facteur que l'on a pu observer jusqu'à présent. Et quand je dis régime alimentaire, ça ne veut pas dire manger plus de ci ou moins de cela. Non, quand je dis régime alimentaire, ça veut dire changer la composition des aliments de telle sorte que cela modifie les gènes qui contrôlent le vieillissement. Il y a deux gènes que nous avons identifiés. Il y en a un troisième qui a été identifié par un autre groupe de chercheurs, et ces trois gènes régulent le vieillissement. Chez la souris, le fait de changer un gène permet de doubler la longévité de la souris. Donc, on n'est plus simplement dans les concepts théoriques. On peut allonger la vie d'une souris en changeant un gène, et évidemment, c'est longévité en bonne santé, dont je vous parle. Par exemple, ces souris peuvent vivre deux fois plus longtemps et la moitié d'entre elles n'auront jamais de maladie par rapport à vivre moins avec 90% des individus qui portent des maladies.
Alors là, précisément dans les cas d'ailleurs que vous citez avec ces modèles animaux, Walter Longo, est-ce qu'on parle d'un changement d'alimentation ou d'une restriction calorique, c'est-à-dire moins d'alimentation justement?
La restriction calorique a toujours été une mauvaise idée. Et mon patron, mon mentor, Walford, à UCLA, est le gourou de la restriction calorique. Il a fait une expérience sur lui-même. Il y a à la fois de la réussite, mais de l'échec. Pourquoi de la réussite? Il s'est enfermé dans Biosphère 2, dans le désert de l'Arizona, en 91. Moi, j'étais dans son laboratoire, en Californie. 8 personnes, donc, en restriction calorique. Il y a des changements au niveau sanguin. Tous les cardiologues seraient choqués. Par exemple, la tension est passée de 110 à 85. Le cholestérol est passé de 200 à 110. Les triglycérides, grosse chute. Le glucose sanguin, chute pour atteindre 60. Tous les cardiologues vont vous dire, bon, ces gens-là vont vivre pour toujours. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'ils sont devenus anorexiques en réalité. Et donc, ça a généré des problèmes nouveaux. Donc, la restriction calorique, ce n'est pas la bonne approche. Mais aujourd'hui, nous trouvons d'autres voies. Par exemple, la restriction protéique semble être très bénéfique. Donc légumes et poissons, donc avec peu de protéines, ça semble tout à fait efficace. Et évidemment, nous lançons un régime que nous appelons le FMD, Fasting Mimicking Diet. Il ne s'agit pas de jeûner, il s'agit de s'accorder un moment de nettoyage et de remplacer, de régénérer les cellules tous les 3 ou 4 mois, hein, pendant quelques jours. Et ça, on a également démontré l'efficacité.
Mais ça, c'est la restriction calorique, Walter Longo, non ? Faire des petites périodes de jeûne comme ça ? Quelle est la différence, alors, exactement, entre ce que vous préconisez et la restriction calorique ?
Oui, il y a de la restriction calorique dans cette approche, mais d'abord, chez la souris, on a commencé par les souris. Si vous regardez la quantité de calories que la souris ingère par mois, c'est la même chose. Autrement dit, pendant cette période de 5 jours de jeûne, par exemple, la souris mange moins, mais elle mange davantage les autres jours, donc il n'y a pas de restriction calorique sur une période d'un mois. Chez les êtres humains, dans cette étude clinique que nous avons menée, nous pensons qu'il en va de même, parce que les gens perdent un petit peu de graisse abdominale, mais ne perdent pas beaucoup de poids, ne perdent pas de tissu musculaire. Donc il ne s'agit pas de restriction calorique au total, il s'agit au contraire d'un moment temporaire lors duquel le corps doit se débarrasser de tout ce qui est malsain, parce que cette énergie malsaine sert de carburant. Mais lorsque l'on renourrit le corps, ça se reconstitue de manière saine. Il y a une analogie avec l'ancien train à vapeur qui ne peut pas arriver à la gare suivante, donc le chauffeur, le conducteur, prend toutes les pièces abîmées, les bancs en bois et ainsi de suite, les chaises cassées dans le train, et ensuite brûle cela pour arriver à la gare. Et ben c'est la même chose. Donc on a un train qui est à 20% nouveau, parce que nous, évidemment, nous remplaçons tout ce qui a été endommagé et qui ça a servi de carburant.
Walter Longo, notre invité cet après-midi autour du régime de longévité, ça paraît chez Actes Sud et vos messages arrivent sur franceinter.fr.
Ce peu d'amour que tu me donnes, ce peu d'égards que je reçois, sent-il de trop pour un seul homme? Sent-il de trop venant de toi? Prends garde que je ne me lasse, que ton jeu ne m'amuse plus, que celui qui prendre ma place pourrait bien te tanner le cul. Je le pense, malgré le bien que je te veux, je sens bientôt venir ta chance. Tu as besoin d'ouvrir les yeux. Des avaricieux, ma facitude était un homme. Je te vendrai par le milieu. regard que je reçois. Super amour que tu me donnes. Super égard que je reçois.
Voilà, ce peu d'amour, et c'est une nouvelle version de cette chanson de Stéphane Escher avec un nouvel album qui arrivera en octobre.
La tête au carré.
Voilà, sur France Inter, nous accueillons Walter Longo cet après-midi à l'occasion de la sortie de ce livre « Le régime de longévité, une nouvelle stratégie alimentaire pour régénérer, rajeunir l'organisme, combattre les maladies et atteindre le poids idéal ». Et ce livre paraît chez Actes Sud. Walter Longo, on le disait tout à l'heure, donc vous arrivez à l'âge de 16 ans aux États-Unis et à Chicago, vous dites que vous découvrez finalement le régime infarctus, c'est ça ?
Oui, le régime infarctus, je l'ai vu au Chicago, puis au Texas. Je me suis dit, ça ne peut pas être pire qu'à Chicago. Je suis allé à Texas et je me suis aperçu qu'avec la cuisine Tex-Mex, beaucoup de graisse et beaucoup de sucre dans cette cuisine-là. Donc, beaucoup d'obésité et... comme on peut s'y attendre, San Antonio dans le Texas, c'est la ville qui a le niveau d'obésité le plus élevé des États-Unis. Plus de 72% des Américains sont en surpoids. Mais quand je vais en Italie, et j'imagine que c'est la même chose en France, les gens considèrent les Américains comme ayant un problème et ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup d'obésité dans le sud de l'Italie, du point de vue des chiffres. La prévalence le montre. Je ne connais pas les chiffres pour la France, mais j'imagine qu'il y a beaucoup plus de gens en surpoids qu'on ne le pense.
Alors, il y a des questions des auditeurs qui arrivent sur le site de l'émission. Marjorie nous dit ceci. On nous a toujours dit que la longévité des centenaires crétois ou japonais n'était pas d'origine génétique, puisque lorsqu'ils partaient justement aux États-Unis, ils développaient les mêmes maladies que les Américains natifs. Donc, c'est juste une question d'alimentation ?
Nous avons parlé d'Okinawa. Alors, c'est vrai que les gens d'Okinawa détenaient le record de longévité pendant longtemps. Alors, évidemment, ces gens-là ont un régime alimentaire dont la qualité baisse et leur longévité aussi. Même chose en Italie. En Italie, les choses ne s'améliorent pas. Et l'Italie est bien moins classée du point de vue de la longévité. Alors, le monde se transforme lentement en monde de la malbouffe et on en paye les conséquences. Si l'on regarde le cancer du sein, eh bien, il y a 25 ans en Italie, le taux de cancer du sein était faible. Le régime alimentaire change, il évolue et petit à petit, les chiffres du cancer du sein en Italie augmentent et il y a une corrélation. Et aujourd'hui, on est à des chiffres proches de l'incidence de cancer du sein aux États-Unis. Donc, qu'il s'agisse d'Okinawa, de Sardaigne, de Crète, il y a des émigrés qui vont aux États-Unis ou alors qui émigrent vers un pays où le régime alimentaire est moins bon. Si vous regardez les centenaires en Calabrais, eh bien, leur régime alimentaire est complètement différent de leur progéniture. Et la progéniture, évidemment, n'a pas le même régime alimentaire alors qu'ils vivent au même endroit.
Alors, dans ce livre, d'abord, vous proposez les 5 piliers de la longévité. Alors ça, c'est la stratégie que vous prenez, hein, qui est basée sur vos découvertes. C'est également finalement la méthodologie de votre travail. Et le premier pilier finalement de votre travail, c'est la recherche fondamentale, Walter Longo. Ça, vous insistez beaucoup là-dessus, hein. C'est vraiment l'aspect scientifique de vos travaux.
Oui, à l'évidence, quand je me suis mis à écrire ce livre, je savais qu'il y avait 1 million de livres qui proposent des régimes. Mais en même temps, je savais que je n'aurais pas un impact important si je faisais la même chose que tous les autres. Donc, je me suis dit, il faut que je me serve des résultats factuels dont je dispose. Donc, je me suis toujours rendu compte compte que dans une cour de justice, il faut avoir des preuves pour accuser quelqu'un, alors que pour un régime, il suffit d'avoir une opinion. Donc, oui, l'important, c'est la recherche fondamentale. Ça, c'est un des piliers. Par exemple, les études cliniques randomisées, les données épidémiologiques, mathématiques. Il faut se servir de ces chiffres pour s'assurer qu'on est dans la bonne voie. Ensuite, si dans le laboratoire, on trouve un régime dont on pense qu'il est suffisamment pour améliorer la longévité de la souris, est-ce que c'est adapté aux êtres humains? Est-ce que c'est bien par rapport au centenaire? C'est pas toujours. Et sinon, il y a une erreur qui est communément faite et elle consiste à prendre des risques avec les gens. Je m'explique. Vous trouvez quelque chose dans le laboratoire et vous vous dites, ah ben tout le monde doit faire ça parce que vous marchez dans votre laboratoire. Mais vous ne cherchez pas à ne pas nuire. Qu'est-ce qui se passe si dans 20 ans il y a des effets secondaires? Si tout le monde a le Parkinson, par exemple, on a dit Parkinson. C'est pourquoi il faut se pencher sur les centenaires. Ils ont un régime alimentaire de qualité, et si ce régime de qualité est lié aussi à l'absence de maladie, et bien là, on avance. Donc, si on prend ces données scientifiques qui reposent sur des recherches sérieuses, et si on se penche sur les individus, notamment les centenaires, en regardant tous les aspects multifactoriels, à ce moment-là, on peut être sur la bonne voie.
C'est toute la difficulté de mener des travaux sur l'humain concernant la longévité, parce qu'évidemment, des générations d'humains, c'est beaucoup plus long que des générations de souris, Walter Longo.
Oui, on ne peut pas tout faire sur les humains, évidemment. Par exemple, nous avons démontré que si l'on prend ce régime FMD, on peut infliger le diabète type 1 ou type 2. Donc, il y a une régénération embryonnaire ou similaire à celle de l'embryon pour régénérer les cellules bêta qui fabrique l'insuline. Ça, on le fait chez la souris, mais impossible de faire ça chez l'être humain. On peut faire des études cliniques, certes, mais on ne va pas en ressortir quoi que ce soit quant à la compréhension des phénomènes en jeu. Et c'est très difficile de concevoir même les essais cliniques appropriés.
Alors, ce régime de longévité, Walter Longo, qui s'appelle le Fasting Mimicking Diet, FMD, alors ça consiste en quoi, précisément pour les auditeurs qui nous écoutent, quelle est finalement, vous, votre recette?
La recette, eh bien, la clé est la suivante. D'abord, il faut comprendre les gènes qui maîtrisent la génération et le vieillissement. Ensuite, il nous a fallu comprendre la relation qu'il y a entre les différents ingrédients du régime et le gène. Par exemple, les protéines contrôlent IGF-1 et TOR. Donc, avec un faible taux de protéines dans le régime, on peut réduire les calories comme dans un régime, mais les sucres maîtrisent un autre gène. Donc, avec peu de protéines et peu de sucre, on peut éteindre, désactiver les trois gènes clés. Donc, c'est la nutri-technologie, c'est comme ça que nous l'appelons. La capacité à comprendre la composition alimentaire très bien pour orchestrer l'activité des différents gènes. Puis ensuite, la graisse. Parce que lorsque on ne mange pas, eh bien, on a de la graisse. Et cette graisse n'est pas considérée comme une interférence par le corps. Le corps accepte certaines graisses, matières grasses, comme faisant partie de la réaction au jeûne.
Donc les Crétois ou les habitants de Moloko, par exemple, font de la nutri-technologie sans le savoir?
Non, le jeûne est pratiqué depuis très longtemps dans différentes religions. Les Crétois et les Sardes et les Japonais d'Okinawa ne jeûnent pas tant que ça, mais au quotidien, leur régime était si idéal que nous pensons que le jeûne n'était pas nécessaire. ou du moins pas aussi important. Et je le répète, si on a au quotidien un bon régime, comme c'était le cas de toutes ces personnes qu'on vient de citer, à ce moment-là, le jeûne ne devient nécessaire qu'une ou deux fois par an.
Alors, les effets...
Et dans l'étude clinique, l'effet le plus important que l'on voit, c'est chez les gens qui ont le plus de problèmes, pas les gens qui ont le régime parfait. On voit peu de changements chez les gens qui ont le régime parfait.
Alors justement, les effets bénéfiques du jeûne, on l'avait vu dans ce documentaire, Le jeûne, une nouvelle thérapie, de Thierry Lestrade et Sylvie Guillemin, avec la pratique du jeûne chez une dame suisse qui a fait justement l'essai pendant plusieurs semaines.
Pauline Valiquet vient pour la deuxième fois à la clinique Büchinger cette année. Cette interprète, qui vit en Suisse, souffre de graves rhumatismes. Elle a décidé de jeûner 12 jours.
Vraiment, j'ai eu un moment de désespoir où je me suis dit, mais je suis encore beaucoup trop jeune pour être grabataire. Mais que va être ma vie, d'autant plus que je vis seule. Je suis arrivée au mois de février absolument épuisée de douleurs, de médicaments aussi, parce qu'on m'avait, j'avais pris des antirhumatismaux, de la cortisone, enfin tout ce qu'on donne normalement. Et ce jeûne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, au lieu de m'épuiser encore plus, j'ai eu l'impression qu'en me purifiant tout à fait, mon corps a retrouvé le ressort nécessaire pour rebondir. Et bien sûr, je ne suis pas ressortie ici sur la pointe des pieds et en gambadant, non. Mais j'ai senti qu'à partir de ce moment-là, mon corps avait retrouvé sa capacité de se guérir, quoi.
Walter Longo, quand on observe justement le processus du jeûne sur les organismes, on observe immédiatement des modifications du point de vue cellulaire, du point de vue des gènes.
Oui, on observe des phénomènes immédiatement. Ça ne signifie pas qu'on a la solution immédiatement. Mais par exemple, si l'on regarde IGF-1, si l'on regarde le glucose, par exemple, là, on voit les changements le troisième au quatrième jour, ça révolutionne le corps. Par exemple, le cerveau, au cinquième jour, utilise la moitié du carburant. La moitié du carburant vient de la matière grasse, alors que 100% fonctionne avec le sucre. Mais au cinquième jour, on s'aperçoit que le cerveau équilibre son carburant, 50% matière grasse, 50% sucre. Donc le jeûne, ça révolutionne tout dans l'organisme et on le voit presque immédiatement. Alors s'agissant du rhumatisme, chez cette dame, nous et d'autres groupes de chercheurs continuons à étudier cela. Nous arrivons à certains résultats et nous ne voulons pas faire de recommandations pour dire que ça va résoudre tous les problèmes, toutes les maladies. Mais en tout état de cause, dans nos études cliniques, on a montré des effets anti-inflammatoire très, très puissant. Et sur la sclérose en plaques, nous avons également publié un article. Donc, il y a un effet aussi contre les maladies auto-immunes. S'agissant du rhumatisme, là, on peut dire que le jeûne peut être efficace, mais encore une fois, nous devons faire des études cliniques poussées pour nous assurer de cela, pour démontrer les choses de telle sorte que cela pourra être mis en œuvre par le corps médical.
Voilà, vous mettez en garde parce que tout le monde ne peut pas justement pratiquer non plus cette diète à base de jeûne. Hein. Traduction de Xavier Combes.
Non, je dis qu'il ne faut pas jeûner. Il faut se rendre dans une clinique spécialisée si on veut faire un jeûne. Et cette FMD entre 800 et 1100 calories et qui a fait l'objet d'essais sur plusieurs centaines de personnes. Aujourd'hui, nous collectons les données à mon université en Californie et il y a plusieurs centaines de médecins qui nous donnent des informations pour voir s'il y a des effets secondaires. Et on a des études sur 2000 ou 3000 patients et donc on va bientôt publier un article pour voir quels sont les effets secondaires. Donc c'est très important. Il faut, lorsque l'on envisage cela, le faire en clinique. Il y a une clinique en Allemagne, par exemple, ou alors ce régime FMD, il faut le mener de façon comme cela a été décrit. Il ne faut pas improviser. Hein. En Italie, Australie, il y a beaucoup de gens qui ont fait les choses à leur sauce et ça leur a fait plus de mal que de bien. Donc il ne faut pas improviser avec ces choses-là. Parce que, imaginons qu'on soit diabétique ou anorexique, on ne peut pas forcément avoir quelqu'un vous dire ne le faites pas. Mais vous dites, ah, moi je vais improviser, je suis anorexique, mais je vais quand même faire cela. Mais à ce moment-là, ça peut être extrêmement délétère. Je vais vous donner un exemple. Il y a une femme qui avait la sclérose en plaques en Italie. Elle est allée voir un médecin. Et ce médecin lui a dit, rentrez chez vous et jeûnez pendant 3 semaines. Le 10e jour, je crois, eh bien, elle est morte, cette femme. Et elle est morte parce que c'était un jeûne improvisé. Alors, c'est très rare, hein, ce que je vous décris là, mais ça existe. C'est le cas extrême. C'est l'une des conséquences de cette improvisation et de cette thérapie qui n'a pas fait l'objet de tests rigoureux. Donc, il faut s'en tenir à ce qui a été démontré cliniquement. Si on a une maladie, il faut faire intervenir un médecin et le médecin doit être responsable du traitement, de préférence avec une étude clinique jusqu'à ce que ça soit approuvé par les autorités sanitaires.
Walter Longo, l'invité de la Tête au Carré cet après-midi.
Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. J'ai joué au dé à Yaoundé, j'ai joué aux dames à Amsterdam, j'ai fait des gammes à Birmingham. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. J'ai été borné à Bornéo, j'ai des pompettes à Papette, j'ai bu de l'eau à Bordeaux. J'ai dit tant pis à Tampico, j'étais sur ta à Bogota et des calculs à Calcutta. À moi faut pas me raconter parce que vraiment j'en ai bavé. À moi faut pas me raconter parce que vraiment j'en ai bavé. J'ai été errant à Téhéran et au sauna à Sahana. J'ai fait le chasseur à Kinshasa. Et la nounou à Cotonou, j'ai fait de la tôle à Dole. J'ai été lourde et à lourde. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. J'ai été crétin à Créteil, j'ai eu la berlue à Berlin. J'ai été gentil à Port-Gentil. Et malpoli à Tripoli, j'ai fait la vie à Varsovie et le mort à Baltimore. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant.
Et c'est bien sûr Jacques Dutronc à l'instant avec l'aventurier.
La Tête au Carré. Sur France Inter.
Voilà, Walter Longo, de passage en France pour la sortie de ce livre, Le régime de longévité, qui paraît donc chez Actes Sud, cette nouvelle stratégie alimentaire pour régénérer et rajeunir l'organisme, à l'appui bien sûr de ces travaux que vous menez avec vos confrères scientifiques, en particulier aux États-Unis et en Italie. Des questions des auditeurs, Walter Longo, c'est Sylvette qui nous dit ici en France, la Haute Autorité de Santé dénonce le jeûne pendant la chimiothérapie et écrit même que ça peut annuler les effets de la chimiothérapie. Qu'en pensez-vous? Et évidemment, c'est une question que vous connaissez bien puisque vous avez travaillé sur le sujet jeûne et chimiothérapie sur la souris, hein, en particulier.
C'est nous qui avons travaillé sur ce sujet les premiers, chez la souris. Chez la souris, ça fonctionne très bien. Donc, il y a des souris porteuses de cancer dont le cancer disparaît lors d'un jeûne. Chimiothérapie et jeûne, la combinaison des deux, permet de se débarrasser du cancer chez la souris. Il y a pas mal d'hôpitaux qui ont travaillé sur 300 patients sous chimiothérapie et sous jeûne. Et la conclusion, et là je me réfère à des articles qui ont été publiés, il y a des études non publiées encore, c'est que on est en sécurité. L'efficacité semble réduire les effets secondaires. C'est le Charité Hospital André Aspekesson en Allemagne qui a démontré les effets protecteurs du régime FMD. Donc, on se protège des effets secondaires de la chimiothérapie grâce à ce régime alimentaire. Alors, est-ce que les gens doivent le faire? Généralement, comme je l'ai dit précédemment à propos de la sclérose en plaques et les maladies neurodégénératives, si l'on peut attendre, il faut attendre qu'il y ait des études cliniques randomisées, formelles et qu'il y ait l'autorisation des autorités sanitaires. À ce moment-là, le régime FMD, c'est un petit peu comme un médicament. Il faut que ce soit toujours la même chose, exactement identique à ce qui est fait l'objet de tests cliniques. Donc, imaginons qu'on ait un cancer et qu'on ne peut plus attendre. Là, je ne suis pas d'accord avec l'idée générale selon laquelle il ne faut pas le faire. Moi, je dirais que l'oncologue doit entrer en jeu. Les médecins et le patient doivent ensemble décider si ça vaut la peine. Imaginons que vous ayez 6 mois à vivre ou que les choses vont mal et que vous ne pouvez plus suivre la thérapie. À ce moment-là, le cancérologue et le patient doivent décider est-ce que ce risque vaut la peine d'être pris. Et à ce moment-là, on peut adopter cette approche avant même qu'il y ait une autorisation formelle.
Ouais, sauf que vous aurez beaucoup de mal à trouver un oncologue qui va vous préconiser justement un jeûne dans le cas d'un traitement, Walter Lango.
Non, il faut que le cancérologue, l'oncologue, fasse son métier. Si quelqu'un est à un stade avancé de cancer, proche de la mort, donc, y a-t-il une autre possibilité? Si la réponse est non, pourquoi ne pas tenter cela? Peut-être qu'on peut choisir de ne pas le faire.
Est-ce qu'il n'y a pas de danger, justement, dans le cas de personnes qui, souvent, ont une perte musculaire importante et sont déjà fragilisées par les traitements, de faire... Alors, d'abord, il faut dire que ce sont des jeûnes très courts quand même, ce ne sont pas des jeûnes sur des longues périodes.
Non, on parle d'un jeûne bref. Chez des centaines de patients, on ne voit pas de problème de perte de poids trop important. Mais il y a un critère d'exclusion. Si vous avez un IMC de moins de 18, il n'en est pas question. Si vous perdez du poids, eh bien, on n'a pas le droit de le faire avant de reprendre du poids. Mais si vous prenez toutes les précautions nécessaires, et encore une fois, vous devez être à un stade où vous n'avez plus le choix, hein. Eh bien, à ce moment-là, moi, je dirais qu'il serait raisonnable que le cancérologue prenne la décision de prendre, d'adopter ce régime avec un nutritionniste. Et on pourrait le faire ainsi.
Dernière question très rapide de Christine. Est-ce que les personnes au-delà de 60 ans doivent, elles aussi, réduire la consommation de viande?
Dans mon ouvrage, je parle d'une publication qui date d'il y a quelques années et qui montre qu'au-delà de l'âge de 65 ans, il serait peut-être opportun, bien qu'avant l'âge de 65 ans, peu de donc vegan avec poisson, ça c'est un bon régime, et après l'âge de 65 ans, un peu plus de protéines, un petit peu de viande, des œufs, du fromage. Ça pourrait bien être une bonne idée. En effet, les personnes plus âgées semblent avoir plus de problèmes d'assimilation et d'incorporation et de maintien de la masse musculaire. Parce qu'à partir d'un certain âge, on perd de la masse musculaire. Et cette masse musculaire, il faut essayer de la préserver. Donc, un petit peu plus de ces aliments-là, ça ne peut pas faire de mal.
Merci Walter Lango. Le régime de longévité, donc cet ouvrage qui a été un grand succès en Italie, paraît en France aux éditions Actes Sud.